Et nous a rejoint sur le plateau la chanteuse du groupe Moura. Je prononce bien ?
Oui.
Oui. Clara Diez Marquez, bonjour.
Bonjour.
Le projet Moura, composé aussi de Thomas Felder, qu'on a rencontré tout à l'heure, et de Martin Chaperon à la guitare. Alors, vous avez grandi en Espagne, à Oviedo, et vous vivez à Lorient depuis 8 ans. Vous avez été touché par le chant des femmes des Asturies dès le plus jeune âge. Vous avez grandi avec. Vous portez donc ce projet artistique qui fait appel uniquement à des airs traditionnels d'Asturies. C'est important pour vous, c'est quoi? C'est un acte militant? Je posais la question à Thomas, mais...
Oui, c'est quelque chose déjà de très naturel, parce que, comme vous dites, je suis née un peu dedans, quoi, dans ces contextes-là, à la fin de la vie de femmes qui ont transmis ce savoir. Et donc, c'est un acte militant de plusieurs points de vue, du point de vue de la place de la femme dans la vie de façon générale, mais dans la scène particulièrement. Puis un acte militant par rapport à la défense de la langue asturienne, qui est ma langue maternelle et qui n'est pas une langue reconnue par l'État espagnol comme langue officielle. Et c'est un militantisme aussi anti-cliché, tous les clichés qui peuvent être autour de cette musique-là. Donc les clichés qu'il y a de la musique espagnole, le flamenco déjà, et puis plus concrètement dans le nord de l'Espagne, la musique celtique. Et c'est un cliché auquel j'adhère pas du tout. Et donc avec notre proposition musicale, déjà de travailler le répertoire chanté, non pas le répertoire sonné, et puis l'amener un peu vers cette texture musique un peu brute. Et voilà, on essaye de casser ces clichés-là.
Donc on va pas refaire l'histoire de l'Espagne non plus, mais c'est vrai que l'Espagne est assez divisée quant aux cultures et aux langues, le castillan, le catalan, la langue asturienne, entre la volonté de certains, par exemple, de l'indépendance de la Catalogne. Comment est-ce que vous vous situez, vous, dans cette Espagne multiculturelle? Est-ce que vous vous sentez 100% asturienne ou moitié asturienne, moitié espagnole? Comment...
Bah, ça a changé depuis que j'habite en France. Je suis partie de chez moi. Bon, chez moi, c'est les Asturies. Parce que dire l'Espagne, c'est comme dire citoyen du monde. Ça veut tout et rien dire. Et bah, étant ici, c'est vrai que les gens, ils savent pas du tout où se trouvent les Asturies. Donc, il faut dire, oui, je viens d'Espagne. Mais ça ne veut rien dire, quoi. L'Espagne est faite de plein de pays avec plein d'identités différentes. Et des fois plus reconnue que d'autres. Mais ça me tient à cœur de reconnaître cette identité-là, quoi. Et des fois, c'est un peu compliqué, c'est vrai, avec le cas catalan, le cas basque auparavant, justement, de défendre, mettre en valeur ces points d'identité, comme notamment la langue, par rapport aux hommes politiques de l'Espagne, ça leur fait peur, quoi. Donc, reconnaître une langue comme langue officielle, ça veut dire que tout de suite après, on va poser des bombes et on va vouloir être indépendant, alors que c'est pas du tout, c'est une question de dignité, tout simplement.
Et est-ce que c'est pour ça aussi que vous avez été attiré par la Bretagne et par cette culture un petit peu similaire finalement?
Je suis venue en Bretagne parce qu'évidemment il y a des liens entre les Asturies et la Bretagne. On est censé être les nations celtes. Mais mis à part ça, avec le Festival Interceltique de Lorient, on a toujours eu plein de connexions. Et moi, j'avais des copains ici en Bretagne. Donc, tant à choisir un endroit de la France où il ne fasse pas chaud, comme chez moi. J'ai choisi la Bretagne, c'est vrai. Mais après, ce qui est super, c'est que ma culture à moi a trouvé ici une dignité qu'elle n'avait pas chez elle. Et ça, c'est magnifique.
Donc, en parlant de culture, on a... dans le groupe un mélange de cultures, parce que donc vous avez deux musiciens bretons avec vous, Martin Chaperon à la guitare et Thomas Felder au violon. Comment est-ce que ce trio il s'est créé?
En fait, dans Moga, il y a que de la musique asturienne. Martin et Thomas, ils sont bretons, mais ils se sont nourris de plein de d'autres musiques, que ce soit du monde ou d'autres univers musicaux. Et c'est ça qu'ils amènent dans Moga. Ils amènent pas forcément une identité bretonne. Et le trio s'est formé parce que je participais dans plusieurs projets musicaux auparavant et qui mélangeaient la musique asturienne à la musique à danser en Bretagne. Et puis j'ai voulu revenir un peu à l'essentiel avec les percussions et mettre en valeur le chant. Et donc j'ai fait appel à Martin et à Thomas, deux musiciens. J'ai trouvé qu'ils pouvaient aller si loin où je voulais pousser tous ces chants-là.
Ah oui, je voulais revenir sur Alors, on parlait au tout début que c'était des chants typiquement traditionnels d'Asturie. Il y a aussi un poète qui a participé, enfin, que vous avez utilisé des textes de Pablo Texon.
Téchon.
qui a écrit une série de micro-récits, de portraits de femmes anonymes pour vos spectacles.
Oui.
Vous pouvez nous en parler un petit peu.
Oui. Quand on a créé le spectacle, je me suis dit que j'avais pas envie de présenter de façon ordinaire ces morceaux, vient de tel village, tout ça, on s'en fout un peu, quoi. Donc j'ai fait appel à Pablo Téchon Castagnon, qui est un poète en langue asturienne, qui est académicien de l'Académie de la langue asturienne également. Et je lui demandais de nous écrire une série de mini-récits qui font office de fil rouge tout le long du spectacle. Donc les gens rentrent aussi dans une sorte d'histoire, dans cet univers de femmes, et son vouloir, quoi, avec ces récits-là.
Je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure, vous parliez de vous mettre en valeur la musique chantée et non sonnée. Justement, pourquoi s'être passé de la gaïta asturiana? Pourquoi ne pas l'intégrer dans ce projet, peut-être épisodiquement par touche?
Parce que la gaïta, on la connaît. On la connaît au Festival de l'Orient. La cornemuse existe partout en Europe et dans le monde. Et les chants de femmes des Asturies, on ne les connaît pas du tout.
On ne pourrait pas marier les deux?
On pourrait les marier, oui, pourquoi pas. On peut faire ce qu'on veut avec la tradition. Elle est toujours vivante, on peut faire absolument ce qu'on veut. Mais je trouve une force... particulière dans les chants que je ne retrouve pas dans les répertoires sonnés, même si la gaïta c'est un instrument très puissant au niveau du son. La frappe que j'ai reçue étant petite écoutant ces chants-là, qui ne m'a jamais quittée et qui a formé aussi mon caractère, et elle est là et j'ai envie de la partager, la mettre en valeur.
Alors justement, ces chants, est-ce que c'est des tonadas, ça?
Tonada, c'est un genre de chant qui ressemble au guers, on peut dire. C'est un chant très mélismatique, qui peut être un chant de travail ou pour raconter des faits divers aussi, si terrible que le guers d'ailleurs, avec beaucoup de sang et des mères qui tuent leurs enfants et des choses comme ça. Et donc, c'est un chant de solitude qui est chanté dans la montagne par des hommes ou par des femmes.
Et donc c'est justement ce que vous chantez, enfin, ce sont des tonadas
Pas forcément. Je chante dans Muga et des chants à fonction, donc des chants qui accompagnent les phases de la vie, la naissance, le mariage, la mort et ce qui est après la mort. Des chants de travail, des chants qui racontent le quotidien, quoi, des chants à danser, des chants qui accompagnent des rituels.
Alors j'ai entendu aussi que vous alliez dans les écoles pour parler de votre musique. Pourquoi cette démarche?
Ça, oui, c'est vrai qu'on fait ça. Je fais ça de façon individuelle, autant que chanteuse porteuse de cette culture. Mais on l'a fait récemment aussi à Nantes pour expliquer aux collégiens des 5e la démarche artistique du groupe. Et ça a été une super expérience. Après, on a fait un concert pour 150 gamins de 5e. C'était pas gagné, mais ça s'est très bien passé. C'est très intéressant de partager. Ce genre de choses avec un public si jeune.
Alors il y a un album qui va sortir en avril prochain. Comment s'appelle-t-il d'ailleurs?
Chant des femmes des Asturies.
Tout simplement.
Tout simplement.
Tout simplement. Et là par contre vous avez un tout nouveau répertoire, si j'ai bien compris.
Non, dans l'album on a voulu...
Oui justement, l'album c'est l'ancien répertoire et là depuis vous avez un...
Non,
j'ai mal compris.
On a toujours le même répertoire, voilà. Ce qu'on a voulu faire c'est... C'est couché par écrit, comme qui dit, tout le répertoire qu'on a travaillé depuis un an et qui s'est créé aussi en jouant. Chaque concert est différent, en fait. Martin et Thomas, ils font jamais la même chose en arrangements musicaux. Et on a voulu faire une photo sur le répertoire tel quel il est aujourd'hui. Et ça sortira le 3 avril 2020 au label Pagans.
Très bien.
Voilà.
Une petite dernière question. Parlez-nous de votre concert aux Vieilles Charrues. C'était un bon souvenir?
Ah, carrément.
C'était l'année dernière, je crois. Non,
c'était cette année.
Cette année, tout récemment. Ouais.
C'était cette année. J'ai fait le concert avec une entorse du pied. Faire les Vieilles Charrues avec une entorse, ce n'est pas facile. Mais le concert, c'était super. Super belle scène, super accueil, super public. Et puis, c'est toujours un plaisir de partager ce qu'on porte avec tant de gens. Donc, on reviendra avec plaisir, d'ailleurs.
Vous êtes les bienvenus, en tout cas aussi de revenir à notre micro pour peut-être pour la sortie de l'album.
Avec plaisir.
Voilà. Ben, merci beaucoup,
merci.
Clara, d'être venue.
Merci.
De rien.
Laisse-moi parler de l'actualité. T'oublies toujours l'actualité. Non, c'est surtout parce qu'on peut vous retrouver au Biennale du spectacle à Nantes le 22 janvier et on peut suivre votre actualité sur votre page Facebook.
Voilà.
Si on n'a pas pu écouter votre magnifique voix.